qu'il aimait bien ça, qu'il était fait pour ça.
Hein, t'aimes ça? Dis-le que t'aimes ça.
Depuis, on s'est mariés. On peut dire qu'il porte la culotte. Je lui donne toute ma paye et c'est lui qui gère le budget. Sur l'oreiller, il fait de moi ce qu'il veut, l'enjôleux. Quelquefois, il revendique. Il me dit qu'il en a marre de rester à la maison et de laver mes bas nylons. Je l'embrasse et je lui dis qu'en fait c'est lui, qu'en fait c'est lui, qu'en fait c'est lui.
C'était Yvette Terola. C'est Radio Pleine Lune. On continue notre émission sur le mariage. Maintenant, on va parler de cette fameuse révision, si vous êtes d'accord. Si on en croit la grande presse, les articles qu'il y avait dans les journaux pendant l'été...
C'est la révolution.
Ouais, on devrait être bien contente de ce qui nous attend et on n'aurait à peu près aucun motif de se plaindre. Alors moi, je pense que ça vaut la peine d'examiner ça d'un petit peu plus près et de voir les points principaux de changement donc entre l'ancien droit, qu'on connaît toutes plus ou moins, soit pour l'avoir pratiqué, soit pour l'avoir refusé, et les nouveaux droits, les changements. Est-ce que ça va nous faire changer d'avis sur le mariage? Voilà la grande, grande question.
Suspense!
Alors, tout d'abord, on va peut-être commencer avec cette fameuse question du nom.
Oui, alors, dans le droit actuel, la femme qui se marie perd son propre nom et prend le nom du mari. Dans la proposition qui est faite maintenant, cette histoire de modification, peut-être que j'explique une chose avant qu'on rentre dans les détails, c'est que c'est relativement complexe parce qu'il y a eu d'abord une proposition du Conseil fédéral qui a fait tout un projet très complet. Résultat de 15 à 20 ans de travaux, de commissions, d'enquêtes et toutes sortes de choses, et qui donne finalement la synthèse des points de vue qui avaient été exprimés pendant toute cette période. Ensuite, il y a eu un examen par le Conseil des États, donc qui est la chambre des cantons à l'Assemblée fédérale, qui a pris un certain nombre de décisions, dont la plupart étaient nettement moins en avance sur ce que proposait le Conseil fédéral, et une ou deux un peu plus. Et puis, à la session de juin, il y a eu le Conseil national qui s'est prononcé. Et ce que j'essaie de résumer maintenant, c'est la situation au point où on en est maintenant devant le Conseil national. Donc, on ne sait pas encore si c'est ça qui deviendra notre droit ou pas. Hein. Alors, pour le nom, la proposition du Conseil national, c'est que le nom de famille des époux est celui du mari. Donc ça ne change pas par rapport au droit actuel. Mais ça, c'est nouveau. La femme peut conserver son nom en déclarant cette volonté à l'officier d'état civil lors du mariage.
Avoir que son propre nom.
Oui, n'avoir que son propre nom. Alors que le Conseil fédéral et le Conseil des États proposaient d'une manière plus ou moins large que la femme pouvait adjoindre son nom au nom du couple. Ce que font beaucoup de gens déjà, mais c'est toléré, mais ce n'est pas réglementé, disons, c'est pas la loi. Donc quand on voit Madame Dupont-Dupont, ou Madame Dupont-Durand, mettons, si elle a épousé Monsieur Dupont, son véritable nom légal, c'est Dupont. Et puis elle a le droit d'adjoindre son nom de jeune fille Durand, mais pas sur ses papiers officiels, passeport, papiers d'AVS, etc. Alors, dans le nouveau droit, il y a donc cette possibilité pour les femmes qui le veulent de garder leur nom. Non, qu'elles ne pourront pas passer à leurs enfants. Donc les enfants continueront à acquérir exclusivement le nom du mari. Alors, moi je crois qu'il y a un problème. C'est d'une part que le transfert du nom aux enfants ne se fait pas. C'est d'abord et avant tout, c'est le fait que toutes les femmes ne gardent pas leur propre nom. Ensuite, que le nom de la femme ne passe pas aux enfants. Et troisièmement, que la femme doit prendre la décision lorsqu'elle se marie. devant l'officier d'état civil. Et ça, c'est pas évident que toutes les femmes soient conscientes, déjà lors du mariage, de ce que représente la perte du nom comme perte d'identité. Certaines femmes, c'est peut-être au terme d'une évolution, après quelques années, qu'elles se rendent compte qu'elles veulent retrouver leur nom, elles ne le pourront pas. Donc ça, c'est un problème, il me semble.
Et je ne sais pas si sur la question du nom, on avait encore quelque chose à dire. Enfin, moi, disons, ça m'a toujours révoltée, cette histoire de nom, c'est vrai.
Oui, moi, je vois bien... Enfin, je crois que c'est très important. Et puis, ce n'est pas par hasard que dans la Bible, ça commence par « au commencement était la parole, était le verbe ». Et je crois que les choses, les gens existent quand on peut les nommer. Et que c'est une prérogative extraordinaire de pouvoir imposer son nom. Et je crois que pour nous, le barème de l'égalité, de savoir si une règle qui s'applique à nous est égalitaire, est de demander si les hommes l'accepteraient. Or, je suis sûre que les hommes ne l'accepteraient pas, n'accepteraient pas le changement de nom, de devoir prendre le nom de leur femme et de perdre leur propre. Et puis, pour ça, on peut se référer à l'exemple de l'Allemagne, qui a introduit un droit d'option, c'est-à-dire que les époux peuvent choisir lors du mariage le nom de lui ou d'elle comme nom de famille, et il y a moins de 5% des couples qui a fait usage de ce droit. Et je crois que c'est pas par hasard, je veux dire, les hommes, ils savent que Inès, il s'appelle Dupont, il meurt, il s'appelle toujours Dupont, et puis ils n'ont pas envie de devoir changer. Par contre, ils trouvent tout à fait naturel que nous, on s'appelle aussi Dupont. Enfin, je m'excuse pour les Dupont qui seraient vexés qu'on prenne toujours leur nom en exemple, mais enfin, c'est là.
Ça serait très amusant de voir enfin, par exemple, des avis mortuaires du style Monsieur Voff, Rose Tartempion à la place de Pierre Tartempion, par exemple.
Je crois qu'on n'en est pas là, alors. Mais bon, peut-être juste une chose encore. Je crois que l'importance symbolique du nom, elle a été reconnue au niveau de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral aussi. Ils en parlent tous. Ils disent tous, mais oui, c'est important. Il y a des femmes qui souffrent de perdre leur nom. Oui, c'est important comme identification. Alors, on veut identifier les femmes mariées. Mais bon Dieu, pourquoi est-ce qu'on n'identifie pas les femmes de la naissance à la mort sous le même nom? Parce qu'après, on vient nous coller des arguments du style l'unité de la famille. C'est ça qui justifierait que nous, on doive perdre notre nom et prendre celui du mari, ou bien la complication administrative qui résulterait du fait que les gens aient des noms différents. Mais c'est encore plus compliqué pour les femmes de changer de nom, en tout cas une fois quand elles se marient, et peut-être plusieurs fois si elles divorcent, se remarient, redivorcent, etc. Chaque fois, il faut changer les papiers, les passeports, les trucs d'AVS, etc., etc. Donc moi, il me semble que la seule proposition qui était valable, c'était une proposition de la minorité du Conseil national qui voulait que hommes et femmes conservent chacun leur propre nom et qu'il n'y ait pas d'influence, en gros, du nom de l'autre. Mais ça n'a pas été accepté, évidemment.
Et si on a fini avec cette histoire de nom, qu'est-ce qui se passe par rapport au droit de cité ?
Alors, le droit de cité, c'est donc notre histoire d'origine. Pour le moment, la femme vaudoise qui épouse un gars de Chafouz ou de Uri perd son droit de cité vaudois et devient chafouzoise ou uranaise, même si le mari n'a aucun lien avec son canton d'origine, par exemple.
Et la femme divorcée conserve le droit de... cité oui. De son ex-mari.
Qu'elle a acquis par voilà. Le mariage, oui.
Donc là, j'ai ici la lettre d'une femme qui me dit qu'elle a eu une première fille en étant mariée, qu'elle en a divorcé, qu'elle en a eu une deuxième. Donc, sa deuxième fille a le canton d'origine de son ex-mari avec lequel elle ne vit plus depuis une dizaine d'années.
C'est tout à fait ça.
Charmant.
C'est ce qu'on appelle la logique masculine.
Alors, la modification, la révision propose que la femme prend le droit de cité de son mari tout en conservant son propre droit de cité. Donc, toute femme qui se marie va se retrouver avec deux droits de cité, sauf si une femme genevoise épouse un genevois, elle sera que genevoise, mais si une femme genevoise épouse un tessinois, elle sera tessinoise par mariage et genevoise par naissance. Donc, on aura deux droits de cité, dont un seul, évidemment, qui se transmet aux enfants, toujours celui du mari. Alors, c'est un droit de cité partiel, finalement.
Mais en fait, c'est contraire à l'article sur l'égalité, ce truc complètement, puisque les femmes auront deux droits de cité et les hommes un.
Oui.
C'est en flagrante contradiction avec la Constitution.
Bon, moi, je pense que une bonne partie de la réglementation de cette nouvelle réglementation du mariage est contraire à l'article 4, alinéa 2, qui prévoit l'égalité. Mais ça illustre très bien le fait que l'égalité, c'est pas une égalité mécanique ou mathématique. Dans le droit, on peut pas poser comme ça une équation simple, comme on peut le faire en algèbre ou autre. L'égalité juridique, c'est vraiment un concept extrêmement mouvant.
C'est un rapport de force, ouais.
Oui, mais c'est toute l'évolution du rapport de force qui est corrélative, qui est liée avec l'émergence de la notion d'égalité. Donc ça paraissait absolument pas contraire à l'égalité quand on a adopté le Code civil en 1912 que le mari soit le chef de l'union conjugale, alors qu'on avait déjà une règle d'égalité, pas entre les sexes, mais c'était quand même plus ou moins présent comme problématique. Alors maintenant, on a une règle d'égalité entre les sexes, et puis sur le problème du nom, par exemple, le Conseil national a débattu pendant 2 jours. Ils ont tout dit pratiquement, mais ils ont surtout dit, et puis c'est le résultat du vote de la majorité, que oui, c'était important pour l'identité, oui, c'est important, c'est un droit personnel, mais comme c'est des femmes, elles peuvent bien le perdre, ce droit. C'est ça que ça revient à dire.
Dear, I thought I'd drop a line. The weather's cool, the folks are fine. I'm in bed each night at 9:00. P.S. I love you. Yesterday we had some rain, but all in all, I can't complain. Was it dusty on the train? P.S. I love you. Ride to the Bronx just as soon as you're able. They came around to call. I burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you. Right to the Browns, just as soon as you're able. They came around to call. Burned a hole in the dining room table. Now let me think, I guess that's all. Nothing else for me to say, and so I'll close. But by the way, everybody's thinking of you. P.S. I love you. Love you.
C'était Billie Holiday. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune sur Radio Zone 5,4 MHz. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du mariage et maintenant, en ce moment, plus particulièrement des réformes qui vont peut-être être appliquées dans un avenir pas trop lointain au mariage en Suisse. Dans les nouveaux projets, quels sont donc les rapports du couple marié avec l'extérieur, d'une manière générale? Je crois que c'est ce qu'on appelle la représentation de l'union conjugale.
Oui, alors je crois qu'il faut dire comment ça se passe à l'heure actuelle. Actuellement, c'est le mari qui représente l'union conjugale vis-à-vis des tiers pour toutes les affaires importantes. Et la femme a ce qu'on appelle le pouvoir des clés, ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Elle peut ouvrir et fermer les armoires, mais elle ne peut pas ouvrir le coffre-fort. Elle peut faire les courses ordinaires, elle peut faire tous les actes nécessaires pour assurer les besoins courants du ménage. Ça, c'est la situation actuelle. Dans la proposition de réforme, les deux époux vont se retrouver avec cette sorte de pouvoir des clés, puisqu'il faudra le consentement de chacun des époux pour tout ce qui dépasse, en gros, les dépenses courantes. Donc, on peut remarquer que c'est un désir de protection de l'autre époux et puis de la protection des enfants qu'il a emporté ici en se disant que si on limitait le pouvoir de représentation, on limiterait les cas de dépenses inconsidérées, des maris qui vont jouer au casino ou bien qui engagent toutes les ressources de la famille pour s'acheter une voiture de sport ou une chaîne stéréo supplémentaire.
Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que ce pouvoir illimité, tant qu'il a été accordé que aux hommes, on a trouvé que c'était très bien, et puis du jour où il a fallu l'accorder aux femmes, on a pensé qu'il était trop grand, donc on l'a limité pour les deux.
Exactement, ça c'est la grosse critique celle-là qu'on peut faire, effectivement. Mais c'est toujours le...
Mais quelle mauvaise langue !
C'est toujours le... la manière de résoudre les problèmes par le bas, je trouve, par la plus mauvaise situation possible. Je donne un autre exemple, celui de la nationalité. Il y a une inégalité dans le sens où la femme suisse qui épouse un étranger ne lui transmet pas la nationalité suisse. Par contre, l'homme suisse qui épouse une étrangère la fait devenir suisse par le mariage. Alors, avec la règle d'égalité qui est nouvelle dans le droit suisse entre hommes et femmes, on aurait pu prévoir que la femme suisse qui épouse un homme étranger le rend suisse, comme l'homme suisse qui épouse une femme étrangère la rend suisse. Mais c'est évidemment pas cette solution qui va être négocié et choisi. Au contraire, on va faire en sorte que le mari suisse qui épouse une femme étrangère ne la rend plus suisse. Elle restera étrangère. Par contre, elle pourra se naturaliser plus facilement. Mais c'est exactement le même mécanisme. Au moment où la femme aurait pu bénéficier du droit qui a été considéré tout à fait naturel pendant, de 70 ans, à ce moment-là, on se dit « Oh non, beaucoup trop dangereux, alors on limite aussi le droit du mari pour le mettre à la hauteur de celui de la femme. » Moi, je trouve ça très triste.
C'est d'un mesquin, mais digne de notre gouvernement.
Et puis sur la question du domicile, est-ce que c'est toujours le mari qui choisit la maison et la femme qui doit le suivre partout où il va ?
Non, alors là, je dirais que là, il y a un réel progrès. Dans le sens, oui,
quand même.
Préparez-vous. Donc actuellement, le mari choisit la demeure conjugale et c'est le domicile légal de la femme. Elle ne peut pas s'en constituer un séparé, sauf si des conditions de vie séparées sont réunies, c'est-à-dire en gros, si sa santé, sa vie ou son honneur sont menacées. En fait, si elle introduit une procédure de divorce, pratiquement, c'est ça que ça représente. Alors que dans le nouveau droit, la proposition qui est faite, c'est que les époux choisissent en commun le domicile conjugal en tenant compte des intérêts de l'un et de l'autre. Donc, il faut qu'ils se mettent d'accord. Et c'est là où ça me paraît le plus important. Ils doivent se mettre d'accord pour la résiliation du contrat de bail ou la vente de leur appartement ou de leur maison s'ils en ont une. Contrairement au système actuel où le mari choisit la demeure conjugale et il peut tout seul résilier le contrat de bail. Alors ça, c'est une cause d'énormes problèmes pour les femmes qui veulent divorcer. C'est que très souvent, vous avez une femme à la maison, sonne à la porte la personne de la régie qui dit « on vient pour l'état des lieux ». Ah, quel état des lieux? Qu'est-ce que vous faites là? Votre mari a résilié le bail, madame, vous partez dans 15 jours, il y a des nouveaux locataires. Alors ça, c'est des situations beaucoup plus fréquentes que ce qu'on croit. C'est vraiment la bagarre, le mari qui se venge en emmerdant, pour parler français. Et puis, les femmes n'ont aucun recours contre ça, parce qu'aller devant le juge, c'est beaucoup trop tardif. Les nouveaux locataires, ils sont là avec leurs meubles, pratiquement. Donc là, il y a un progrès. Et puis, il y a aussi un progrès dans le sens où la femme peut se constituer un domicile séparé, même si les conditions de la vie séparée ne sont pas remplies. Donc, comme l'homme qui pouvait aller fabriquer un autre domicile ailleurs, la femme peut s'en faire un. Donc ça, c'est mieux. Il faut le dire quand c'est mieux.
Bravo. Et puis sur la toute brûlante et toujours épineuse question du travail ménager, donc dans l'ancien droit, il y avait cet inénarrable article qui disait que la femme faisait tout et que l'homme faisait rien, si je... Les souvenirs sont bons.
Oui, mais lui, il gagne la vie.
Ah, lui, pardon. Voilà, lui, il allait gagner les sous à la sueur de son front. Oui. Et la femme faisait...
Les dépensait
en restant tranquillement à la maison.
Oui.
Alors, quelle est l'image futuriste que nous donne le nouveau droit?
Alors, c'est extrêmement futuriste. Les deux époux contribuent à l'entretien conjugal, chacun selon ses facultés. Alors, il n'y a plus... Non, ça c'est un progrès aussi, je veux dire, on voit bien comment ça va s'appliquer dans la pratique, parce que la loi ne va pas changer la situation économique et sociale générale, mais je reconnais là qu'il y a un progrès dans le sens où il n'y a plus une division des rôles fixée par la loi. Alors la division des rôles, elle va probablement rester, mais elle sera due beaucoup plus à la tradition, aux obstacles psychologiques, aux obstacles économiques qui font que le travail des femmes vaut moins que celui des hommes, etc. etc. Donc, mais au moins, la loi ne prévoit plus qui doit faire quoi. Ce qui fait qu'on pourra même envisager d'avoir des hommes au foyer sans qu'il soit une absurdité juridique comme ça. Maintenant, on peut noter aussi qu'il y a deux ou trois petites innovations qui accompagnent ça. Un autre des progrès, c'est que la femme qui travaille dans l'industrie ou le commerce de son mari, donc qui fait beaucoup, qui fait la même chose que ferait un employé ou une employée, cette femme qui actuellement n'a pas de salaire et n'a pas droit à quoi que ce soit de particulier, parce qu'on considère qu'en faisant ce travail, elle accomplit ses devoirs de ménagère, cette femme maintenant aura obtenu une récompense, une rétribution équitable de son travail, donc qui dépasse largement le travail domestique. Et puis, autre aspect peut-être important aussi, c'est que l'époux, donc le mari ou la femme, qui contribue plus que sa juste part à l'entretien de la famille, pourra aussi essayer d'obtenir une sorte de compensation.
C'est une espèce d'argent de poche obligatoire?
Non, ça c'est encore autre chose. Il y a effectivement une disposition qui tend à prévoir que le conjoint au foyer doit recevoir de l'autre un montant équitable dont il puisse disposer librement. L'idée étant qu'il faut éviter que celui qui va gagner la vie à l'extérieur, donc en gros c'est le mari, puisse dépenser son fric pour tous les hobbies coûteux qu'il désire, et puis que l'autre, ça c'est ce que je lisais dans les travaux parlementaires, l'autre en soit réduit à collectionner les bons de lessive et autres, pour de temps en temps s'acheter un jouet en plastique. Enfin, c'est à peu près ça. Alors, évidemment, ça peut marcher, cette histoire d'argent de poche plus ou moins variable, dans un couple où il y a assez d'argent, ou dans un couple où le mari dit ce qu'il gagne. Ça ne va pas marcher partout, ça c'est certain. Mais enfin, bon, c'est un peu tristounet, je trouve, parce que ça représente cette espèce de légalisation d'un argent de poche pour ménagère, mais... C'est en tout cas pas la rétribution du travail domestique. Ça n'est pas un salaire ménager. Parce qu'il ne faudrait pas commercialiser ce qui doit être accompli par amour. Enfin, moi, je suis, à titre personnel, contre le salaire ménager. Mais j'ai trouvé intéressant les motivations des parlementaires qui ont discuté sur sur ce petit argent de poche.
cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux, autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah, Gudule, excuse-toi où je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à l'éventre tomate, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Eh bien, après cette belle transition due à Boris Vian, on va parler des régimes matrimoniaux. Je crois qu'on ne peut pas l'éviter, bien que ce soit un sujet extrêmement complexe et assez rébarbatif a priori. Alors on peut bien, peut-être juste dire que beaucoup de femmes ignorent tout simplement quand elles se marient qu'elles adoptent de fait un certain régime matrimonial, donc sous le régime actuel. C'est le régime qui s'appelle l'union des biens et qui est souvent qualifié du régime matrimonial le plus inégalitaire possible pour les femmes. Il faut aussi savoir qu'à peu près 95% des femmes sont soumises à ce régime, c'est-à-dire qu'elles se marient tout simplement à la mairie, elles ne vont pas chez un notaire faire préciser les termes d'un contrat de mariage et choisir éventuellement un autre régime matrimonial. Alors, quelles seront les principales modifications avec les réformes proposées ?
Oui, là, je voulais juste faire une petite intervention. C'est pas si rébarbatif que ça. C'est-à-dire que c'est au fond assez simple, mais ces régimes matrimoniaux. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a vraiment un obstacle psychologique. Parce que, en fait, quand on se marie, comme on se marie au XXe siècle, et que c'est pour des raisons affectives, d'amour, etc., c'est plus tellement pour des raisons d'intérêt, je crois qu'il y a vraiment l'obstacle psychologique, c'est qu'on doit parler de sous, gros sous, tout bêtement, et c'est ça qui est un obstacle. C'est pas tellement le fait que c'est très compliqué à comprendre.
Oui, on doit parler de sous, puis on doit surtout parler de sous à la dissolution du mariage. C'est-à-dire qu'au moment où on se marie, enfin avant, on doit envisager que l'un des deux va mourir, ou bien qu'on va divorcer. Alors, c'est vrai que c'est pas très agréable, mais on va essayer quand même.
Vous ne mariez pas, donc, mon ultime conseil.
Mais si vous vous mariez, sachez ce que vous faites. Alors, sachez que dans le droit actuel, effectivement, c'est l'union des biens qui règne pour, en gros, 95% des gens. Ça veut dire, de manière très, disons, de la manière la plus simple possible, que le mari devient le propriétaire et l'administrateur de la plupart des biens de la femme, qui conserve sa propriété seulement sur un certain nombre de biens limités, qu'on appelle ses biens réservés, qui sont, très résumés, son salaire et puis ses affaires personnelles du style la brosse à dents, les vêtements, le sac, enfin c'est vraiment ce qui est tout à fait personnel. Et puis ce qu'on appelle ses apports, c'est-à-dire ce qu'elle a amené lors du mariage, mais qu'elle avait reçu, qui était à elle, ou bien des cadeaux qu'elle reçoit en cours de mariage, qui lui sont destinés à elle personnellement, et qui sont donc pas en échange d'un service ou de quoi que ce soit, c'est des cadeaux. Donc, ça c'est une première catégorie de biens, donc le mari devient propriétaire de tout le reste, de ce qui était à la femme auparavant. Et puis, deuxième problème par rapport à nos droits, c'est qu'en cas de dissolution du régime, soit par divorce, soit par décès d'un des époux, le partage de ce qu'ils avaient est fait d'une manière inégalitaire. En ce sens que le mari ou ses héritiers, et ses héritiers ça peut être soit les enfants, soit des frères et sœurs, soit ses propres parents, voire même des cousins, ont droit aux 2/3 de ce que le couple a comme bénéfice de l'union conjugale, et la femme ou ses descendants, c'est-à-dire uniquement les enfants, n'ont droit qu'à 1/3 de ce bénéfice. Donc ce bénéfice, c'est ce qui reste comme bien quand on a payé toutes les dettes du mariage. Hein. C'est ce qu'il y a en plus. Alors il y a une double inégalité dans ce régime de l'union des biens. Maintenant, dans les deux autres grands types de régimes qu'on peut choisir à l'heure actuelle et qu'on retrouvera plus ou moins dans le nouveau droit, il y a la séparation de biens, où chacun des deux époux reste le propriétaire de ses affaires, où il n'y a pas de mélange, ce qui fait qu'à la dissolution du mariage, il n'y a pas de liquidation de régime matrimonial, parce qu'on sait ce que chacun avait. Chacun a gardé son carnet d'épargne ou ses meubles, enfin, ça reste séparé les biens. C'est dans le même appartement, mais ça reste quand même séparé. Et puis dans la communauté de biens, les choses appartiennent aux deux époux qui doivent se les partager par moitié en cas de dissolution. Et puis il faut le consentement des époux pour aliéner, pour vendre, pour se débarrasser d'un certain nombre des biens. Alors le projet de loi de révision prévoit aussi un régime légal, c'est-à-dire un régime qui va s'appliquer à tous les gens qui ne prévoient pas autre chose, c'est-à-dire ce 95% de la population qui est mariée sous l'union des biens actuellement, il va se retrouver marié sous ce qu'on appelle la participation aux acquêts.
Donc alors, même les personnes qui se sont mariées sous l'ancien
droit. Alors là, il y a des dispositions transitoires. Ah ouais. Qui vont effectivement faire passer tous les anciens, je veux dire tous les gens mariés depuis le 1er janvier 1912, passeront en bloc, à moins qu'ils fassent un contrat spécial, qu'ils aillent chez un notaire et qu'ils fassent un contrat spécial pour prendre un autre régime, ils passeront tous en bloc sous la participation aux acquêts. Alors cette participation aux acquêts, il faut essayer d'expliquer ce que c'est. Les acquêts, c'est ce qu'on acquiert, ce qu'on obtient à titre onéreux contre quelque chose pendant le mariage. Et ce système de participation est assez curieux parce qu'il prévoit une forme de séparation pendant le mariage, c'est-à-dire que le mari et la femme restent chacun propriétaire des biens qu'il a apportés. Ils ont chacun des biens propres. Qui sont de nouveau l'exemple, la brosse à dents, les vêtements, les bouquins qu'on avait, les disques, etc. C'est ce qui nous appartient à titre gratuit, plus un certain nombre de biens comme des créances en réparation du tort moral et d'autres biens. Et puis, il y a les acquêts qui sont donc les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. C'est par exemple le produit du travail. Donc quand on reçoit un salaire, on a fourni une prestation en échange qui est notre travail. Plus un certain nombre d'autres biens comme les sommes versées à des institutions de prévoyance, le deuxième pilier, l'AVS, etc. Donc il y en a d'autres, mais j'essaye de faire un peu plus simple. Alors, il y a donc séparation sur tous ces biens pendant la durée du mariage. Chacun les administre, chacun les gère de son côté. Par contre, au moment de la dissolution, on réunit ces biens, on en fait une grosse masse, et puis on divise cette masse en deux, et puis on donne une moitié à chacun. Alors, j'ai oublié de dire que, avant de faire la masse, on enlève les biens propres. C'est-à-dire, ma brosse à dents, elle est enlevée de cette masse, puis la brosse à dents de l'autre, elle est aussi enlevée de la masse. Ça, ça retourne à celui qu'il avait au départ, au moment du mariage. Et c'est tout le reste qui est mis ensemble dans un grand pot, et puis on divise par deux après. Alors, je crois que il va y avoir une difficulté pratique pour les couples. C'est-à-dire que les gens, quand ils se marient pour mettre en commun les choses. Donc, ils vont avoir un peu de peine à concevoir que pendant qu'ils sont mariés, c'est-à-dire en principe, pendant que ça va bien, en tout cas au début, ils sont sous une espèce de séparation, puis que c'est quand ça va mal ou quand ça va plus du tout, parce qu'il y en a un des deux qui est mort, que tout d'un coup, ils sont en communauté de biens. Ça, c'est un obstacle peut-être pratique et psychologique qui va être peut-être difficile à dépasser. Et puis le deuxième problème que pose ce régime matrimonial, c'est qu'il est formellement égalitaire, dans le sens où il n'y en a pas un qui aura plus que l'autre au moment de la dissolution, contrairement à l'union des biens. Donc là, on supprime ce privilège qu'avait le mari ou ses héritiers, on fait une égalité. Mais un régime matrimonial ne peut pas compenser l'inégalité socio-économique dont on souffre comme femme. Donc on risque fort, nous, même avec ce système, de se retrouver avec moins que si on était resté marié, par exemple. Et ça va dépendre en plus du type de vie conjugale qu'on aura eu. Est-ce qu'on aura travaillé tout le temps? Est-ce qu'il y aura des périodes où on aura arrêté de travailler, par exemple, pour élever les enfants, etc. Donc je crois que ça, c'est une très bonne illustration du fait que on réalise formellement l'égalité, mais matériellement, dans la vie concrète de tous les jours, c'est pas évident que les femmes se trouvent mieux de ce nouveau système qui est égalitaire sur le papier. Donc là, je crois que il y a vraiment quelque chose. Et puis, on peut l'illustrer aussi par la question du salaire, qui, dans le régime de l'union des biens, est ce qu'on appelle un bien réservé, c'est-à-dire qui appartient qu'à la femme. Donc, elle peut en faire ce qu'elle veut, elle peut le gaspiller si elle le désire, mais c'est à elle toute seule, et ça ne rentre pas dans cette masse à partager à la dissolution du mariage. Par contre, dans le nouveau droit, ça fera partie de la masse qu'on divise entre les deux. Donc on va perdre un des rares avantages qu'on avait dans le système très inégalitaire. Donc, mais ce privilège, il ne va pas être compensé, je crois, ou que partiellement compensé, par l'avantage de cette égalité formelle. Et ça, bon, pour moi, ce sera peut-être ma conclusion, c'est que c'est extrêmement difficile de modifier morceau par morceau un droit en tendant vers une conception de l'égalité. Parce qu'on est toujours en déséquilibre, on ne peut pas facilement proclamer l'égalité et dire en même temps, par exemple, qu'on veut le maintien des pensions alimentaires, parce que là, c'est facile pour les hommes de dire « mais vous êtes incohérente hein ». Et ça va être très, très difficile.
Rosangela, tu voulais aussi amener une conclusion parce qu'on arrive au bout du temps.
Une conclusion, c'était juste une petite constatation. Enfin, en vous ayant écouté, j'ai l'impression comme ça qu'on a un vieil édifice assez croulant et un peu minable et assez mesquin, qu'on a ravalé avec des couleurs un peu vives pour allécher. Ben, moi, ça ne m'allèche pas du tout. Je n'ai pas du tout être envie d'être locataire de ce nouvel immeuble.
Eh bien, moi, c'est aussi ma conclusion et j'espère que vous avez apprécié cette émission trapue sur le nouveau droit du mariage. On va s'arrêter pour ce soir. On vous en reparlera peut-être une autre fois.
Et on termine par une chanson de Barbara Dane, Single Girl, la fille célibataire.
A single girl, oh Lord, a single girl, goes dressed all so fine, oh, goes dressed all so fine. But a married girl, oh Lord, a married girl, wears most any old kind, oh, single girl. Oh, Lord, a single girl goes anywhere she please. Oh, goes anywhere she please. But a married girl, oh Lord, a married girl, got a baby on her knees, oh, got a baby on her knees. A single girl, oh Lord, a single girl goes to the store and buys. Oh, goes to the store and buys. But a married girl, rocks the cradle and cries, oh, rocks the cradle and cries.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune. C'est la fin de notre émission de ce soir. On écoute encore Brigitte Fontaine.
Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, rien que de la musique. Ce ne sera rien, rien que des mots. Sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent. Ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce. Quelque chose est atroce aussi. C'est la radio, tout juste un peu de bruit pour combler le silence, tout juste un peu de bruit et rien de plus, tout juste un peu de bruit, n'ayez pas peur, ce sera tout à fait. De savoir s'il est moins 20 ou moins 5. À cette minute, des milliers et des milliers de gens penseront que la vie est horrible et ils pleureront. À cette minute, deux policiers entreront dans une ambulance et ils jetteront dans la rivière un jeune homme blessé à la tête. À cette minute, une vieille dame ivre-morte gémira seule au dernier étage sous son lit et ne pourra plus bouger. à cette minute un
espace. Vous écoutez Radio Pleine Lune.
Bien content d'avoir trouvé du travail. Mais n'ayez pas peur. On sait ce que c'est que la radio.